On peut voir deux explications, l'une plutôt interne à la vie politique britannique, c'est que l'opposition eurosceptique est devenue tellement forte qu'il se dit que la meilleure manière de la vaincre finalement c'est de parier sur une dynamique politique, sur un débat public qui puisse faire tomber quelques-uns des préjugés les plus forts de l'opinion publique britannique. Par ailleurs, il y a probablement une espèce de calcul qui porte là plus sur les relations entre le Royaume-Uni et ses partenaires européens. Faire jouer le risque d'un échec de référendum, c'est une manière d'obtenir des moyens de pression dans le cadre des négociations de la conférence intergouvernementale qui ne sont pas terminées. C'est la meilleure manière pour Tony Blair de dire « faites-moi telle et telle concession, sinon il y a le risque que le traité soit refusé par référendum par mon opinion publique ».
Alors en effet, il n'y a peut-être pas que la Grande-Bretagne, d'autres vont en effet proposer des référendums. Moyennant quoi, quels peuvent être les véritables dangers pour l'Europe ? Est-ce qu'il peut y avoir blocage de la Constitution donc ?
Il est toujours possible qu'il y ait un échec dans un seul des États membres, et comme la ratification du traité doit être unanime pour qu'il entre en vigueur, eh bien le risque évidemment dans ce cas-là, c'est que le traité soit complètement bloqué. Cela dit, les membres de la Convention européenne avaient envisagé cette hypothèse, et ils ont prévu une clause un peu alambiquée, un peu ouverte, qui dit simplement que dans l'hypothèse où 2 ans après l'ouverture de la ratification, celle-ci n'aurait pas été acquise dans l'ensemble des pays, le Conseil européen se saisit de la question. Ça veut dire simplement qu'on prévoit que politiquement c'est possible, et que donc les chefs d'État et de gouvernement chercheront à ce moment-là une solution, mais ils n'ont pas indiqué précisément où ils chercheront cette solution.
En dehors des a priori purement politiques, le fait de consulter le peuple, les citoyens européens qui se disent souvent un peu floués, qui ont l'impression que ce sont des technocrates qui dirigent l'Europe, est-ce que ce n'est pas une bonne idée également, ou est-ce que la Constitution est peut-être du domaine justement des technocrates et peut-être que les citoyens ne sont pas à même de tout saisir ?
Je pense qu'avoir un débat public sur une constitution, c'est toujours une chose importante, et que cette fameuse distinction qu'on faisait autrefois entre le pouvoir constituant et le pouvoir constitué, amenant à dire que c'est le peuple lui-même qui devait se prononcer sur les textes fondamentaux, cette distinction-là a des fondements politiques tout à fait solides. Cela dit, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ce projet de constitution n'a pas grand-chose de neuf. En réalité, le projet de constitution rationalise l'acquis, et donc il y a déjà eu des ratifications parlementaires, il y a déjà eu des référendums dans certains cas. Ici, c'est plus, peut-être pour marquer d'un saut un peu solennel, l'accomplissement en quelque sorte de cette dynamique d'intégration européenne que pour marquer vraiment l'adhésion à quelque chose de totalement nouveau.
Revenons un moment justement sur la Constitution en tant que telle. On se dirige vers des débats moins houleux avec la nouvelle position espagnole ?
La nouvelle position espagnole a permis qu'on recommence à chercher un compromis. Et il est important de souligner que le gouvernement espagnol a fait de la rénovation de son engagement européen un des éléments essentiels de son programme politique en général. Donc ça montre quand même que la question européenne pénètre même dans les agendas politiques domestiques et devient une question structurante importante. Cela dit, on n'entend pas beaucoup de nouveaux de la part de la présidence irlandaise et venant de la conférence intergouvernementale pour le moment. Donc ce compromis, semble-t-il, reste assez difficile à trouver.